Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Sophie, on va jaser des vraies affaires.
Oui.
Parce que dans notre industrie, on veut être carboneutre. On travaille depuis nombreuses années à trouver toutes sortes d'alternatives. Les entreprises de transport font un bout de chemin en essayant différents carburants alternatifs ou différentes technologies. Et pour nous en parler aujourd'hui, ben, on va parler probablement d'innovation, tout ça. On a comme invité quelqu'un qui est bien ancré dans ce milieu-là. Il s'agit de Daniel Breton. Vous le voyez à TV régulièrement, qui est le PDG de Mobilité électrique Canada. Daniel, bienvenue à Truck Stop Québec.
Très content d'être là.
Daniel, le fait de pouvoir penser un petit peu plus en avant de notre temps et de décarboniser notre industrie, je sais que tu es à ExpoCam, tout ça. C'est quoi la réponse des entreprises ou des manufacturiers que tu as rencontrés tout au long de l'événement?
Je dirais que il y a de plus en plus d'intérêt à trouver des solutions alternatives. Comme tu le disais, il y en a qui parlent d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, de véhicules électriques, évidemment. Puis souvent, quand on parle avec les intervenants, il y a autant de questions que de réponses.
Oui.
Moi qui travaille là-dedans depuis plusieurs décennies déjà, mine de rien, ce qui veut dire que je suis vieux.
Moi, tu parais jeune encore.
Oui, mais quand même.
Attends d'avoir mon âge.
Oui, c'est ça. mais bref, c'est les gens ne réalisent pas à quel point la technologie évolue rapidement. Des fois, je donne comme exemple, c'est le prix d'une batterie par kilowattheure, si on recule, mettons, en 2013, on était à peu près à 780 US par kilowattheure. On prévoit qu'en 2030, on va être à 60 US par kilowattheure.
Quand même.
La densité énergétique des batteries en 2008 et 2020 a été multipliée par 8. Donc, c'est-à-dire dans un même volume, tu as 8 fois plus d'énergie. Et là, on prévoit que la densité énergétique des batteries d'ici à peu près 5 ans devrait doubler. Autrement dit, un volume égal, tu vas avoir 2 fois plus d'énergie. Ce qui veut dire que pour parcourir, disons, mettons 500 km, tu vas avoir 2 fois moins de volume et potentiellement de poids de batterie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on baisse, on baisse non seulement le volume des batteries, on baisse le poids des batteries et on baisse le prix des batteries.
Ce qui est un enjeu fondamental. Dans nous autres, tout est réglementé par poids. Hein?
Oui.
Batterie plus pesante, moins de stock dans remorque, moins de rémunération.
Oui et non. Dans le sens que la plupart des déplacements qui se font en camion moyen et lourd, c'est pas tant le poids, la limitation, c'est le volume. Fait que les gens ont souvent tendance à focusser beaucoup sur le poids, mais c'est plus le volume dans le camion qui fait la différence.
Puis,
nous, on est une association industrielle, on a presque 200 membres. Parmi eux, on a des fabricants de voitures, de camions, d'autobus, mais aussi des centres de recherche comme le Conseil national de recherche du Canada, qui a publié justement un rapport l'année passée sur le sujet. Puis ce qu'on disait, c'est qu'à l'horizon 2040, à peu près tous les camions, d'un point de vue technologique, vont pouvoir être électriques avec une petite niche pour l'hydrogène. Mais tu sais, quand on parle de gaz naturel renouvelable, pour nous, on ne voit pas vraiment de modèle d'affaires économiquement viable pour ces types de technologies.
Mais il y a un appétit actuellement pour le gaz naturel.
Bien oui, mais tu sais, une chose que les gens ne savent pas, c'est que un camion gaz naturel, à cause des fuites de gaz naturel dans le circuit, va émettre plus de gaz à effet de serre qu'un camion diesel.
OK.
Fait que toutes ces données-là scientifiques, nous, on est une espèce de hub de recherche scientifique et de données sur la transition énergétique. Moi, je fais longtemps que je suis là-dedans. J'ai étudié à l'université. Ça fait en sorte qu'il y a effectivement des technologies de transition, mais il y en a qui vont disparaître plus vite que d'autres.
Okay.
J'ai l'impression qu'un des facteurs importants aussi, là, on parlait du volume là, pour les transporteurs, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup la question d'autonomie aussi. Mais là, si ça évolue aussi vite, est-ce que ça veut dire que l'autonomie va énormément grandir aussi dans les prochaines années?
Absolument. Écoute, moi, j'ai été un élu à l'Assemblée nationale en 2012. En 2012, je ne pouvais pas faire Montréal-Québec en voiture électrique.
Oui.
Il y avait une borne de recharge rapide au Québec. L'autonomie moyenne d'une voiture électrique, c'était à peu près 120 km en 2012. En 2025, c'était à peu près 480 km.
Oui, c'est vrai.
Fait que ça a multiplié par 4 en 12 ans. Puis les gens, souvent, ils disent « Ouais, mais les ventes de camions électriques, je pense pas que ça va décoller vraiment. » Je leur dis « Écoutez, au troisième trimestre 2024, les ventes de véhicules lourds électriques au Québec étaient à 3,7 %. » Puis là, les gens disent « Ouais, mais c'est pas grand-chose. » En 2017, les ventes de véhicules légers électriques au Québec, c'était à 1,6 %. Et au troisième trimestre 2024, c'était à 34,6 %. Fait que les ventes ont augmenté de façon exponentielle.
Oui.
Et on prévoit qu'on va être entre, je te dirais, 75 et 85 % de ventes de véhicules électriques en 2030. Fait que là où on est avec les camions maintenant, c'est là où on était il y a 10 ou 15 ans avec les véhicules légers.
Mm-hmm.
Fait que on peut s'attendre à ce que rendu en 2030, on soit facilement à 25-30 % de camions électriques.
La courbe est
La courbe est là. Mm-hmm. Puis en 2035, on va facilement être à 50 % de ventes de camions électriques ou hybrides rechargeables.
Daniel, je me fais l'avocat du diable. Dans l'industrie automobile, le véhicule électrique a sa place, tout ça. Dans notre industrie, elle est dure à vendre, cette place-là. Pourquoi? C'est l'autonomie, justement. Je te donne un exemple. Le kiosque à côté fond de la Californie. Donc, tout ce qu'on mange en fruits et légumes, il y a une très grande partie qui est apportée par eux. Je comprends qu'on veut être plus carboneutre. Mais j'ai comme l'impression que ça va être dur à vendre de dire, bien, vous allez partir en camion électrique et à chaque X kilomètres, vous devrez vous recharger sur une borne, quelque chose. Quand eux autres sont en team, puis le camion n'arrête jamais. Là. Il arrête pour prendre une douche, il arrête pour se laver.
Arrête pour manger.
Manger, puis
et il arrête, même pas. Même et il arrête d'un point de vue réglementaire parce qu'ils sont obligés d'arrêter après tant d'heures sur la route.
Oui, effectivement.
Fait que faut pas oublier une autre chose.
Mais parce comment est-ce qu'on va emmener...
C'est extrêmement pertinent ce que tu dis là. C'est une excellente question. N'oublie pas une chose. Un chargeur rapide de véhicules légers, il y a 5 ans, c'était 50 kW.
OK.
Un chargeur rapide de véhicules légers aujourd'hui, en 2025, c'est 400 kW.
OK.
Donc, le temps de recharge entre il y a 5 ans et aujourd'hui est passé d'une heure et demie à 20 minutes.
OK.
Donc, le temps de recharge a beaucoup diminué.
Okay.
Pour les camions lourds, ça va aller dans la même direction. C'est-à-dire que non seulement les batteries sont de plus en plus efficaces, mais le temps de recharge ne cesse de diminuer. À tel point que, là, on commence à avoir des camions lourds qui font du 800 km.
Oui.
Après 800 km, tu recharges sur un chargeur de 2 MW, ta demi-heure, où tu prends ta douche, tu es obligé de prendre une pause, c'est le temps de recharge.
Okay.
Fait que les gens, comme je vous disais, les gens ne réalisent pas à quel point les choses évoluent rapidement.
Mais...
La densité des batteries évolue rapidement, puis ça va faire en sorte que, je dirais que... Puis là, je rappelle que la majorité des déplacements à camions moyens et lourds, c'est 500 km ou moins. La majorité des camions sur la route, c'est 500 km ou moins. Les gens qui vont en Californie, là, c'est une petite minorité.
Oui. Mais je continue d'être l'avocat du diable.
Vas-y,
je parle à des fabricants de camions qui me disent, demain matin... Tout le parc de camions au Québec est électrifié, ce qui serait une bonne idée, mais qui, aussitôt qu'on va toutes les brancher, on n'a pas assez de courant au Québec pour fournir tout ce beau monde-là.
Okay.
Comment est-ce qu'on peut...
Mais ça n'arrivera pas. T'sais, y a pas. Ça n'arrivera pas que toutes les voitures, tous les camions vont être électrifiés demain matin.
Mais
c'est une transition entre maintenant et 2050.
Y a-t-il une... Disons, est-ce que le gouvernement veut produire des barrages, veut emmener un peu plus d'électricité? Parce que ça va en prendre.
Ça va en prendre plus. Mais je vais te donner un exemple. La Norvège, c'est la mecque de l'électrification des transports.
Oui.
J'étais en Norvège il y a 2 ans. Là-bas, maintenant, là, on est à peu près à 92 % de ventes de véhicules légers électriques, puis à peu près à 35-40 % de ventes de véhicules moyens et lourds électriques.
Oui.
Quand je suis allé il y a 2 ans, parce qu'il ne faut pas confondre les ventes et la flotte. 90 % des ventes, ça veut dire à peu près 25 % de la flotte.
Okay.
Parce que tu sais, tu dis la flotte de véhicules sur la route, ça change pas. Il y a des gens qui gardent leur véhicule.
Mm.
À 23 % de la flotte en 2022, ça représentait une augmentation de la demande d'électricité de 1,4 %. Les gens pensent que parce qu'il y a de plus en plus de véhicules sur la route électriques, que la demande d'électricité augmente exponentiellement. Le vrai défi, puis on a publié un rapport là-dessus, nous, il y a 2 ans, le vrai défi de l'augmentation de la demande d'électricité pour Hydro-Québec ou pour toutes les utilities à travers l'Amérique du Nord, c'est l'augmentation de la population, l'augmentation des industries, l'augmentation des commerces. C'est pas l'augmentation du nombre de véhicules électriques. Ça, c'est une petite couche de la demande.
Fait qu'on a assez de courant pour subvenir à tout le monde.
Hydro-Québec là, prévoit qu'à l'horizon 2032, on va avoir assez de courant avec l'état actuel des choses. Le réseau actuel pour 2 millions de véhicules.
OK.
Fait que plus la demande d'électricité va augmenter, plus effectivement on va devoir produire de l'électricité, mais ça sera principalement dû à l'augmentation de la population des maisons et des commerces. Une fois cela dit, pour aider à gérer la demande d'électricité, parce que les pics de demande, c'est aux heures de pointe. Le matin, puis le soir quand tu reviens de travailler, là tout le monde part le four, la laveuse, le machin, le truc, tu sais, comme Fitzgibbon qui parlait de partir son lave-vaisselle à 1h du matin. Bien,
on fait ça chez nous.
Les véhicules électriques, OK, vont aider à gérer la demande. Par exemple, moi, je prends mon application maintenant, puis si Hydro-Québec dit « Hey, en fin de semaine, il fait froid, puis on a un pic de demande d'électricité, si vous avez une voiture électrique, pouvez-vous, au lieu de démarrer votre recharge en arrivant à 5 heures, démarrer votre recharge à 8 heures ou à 9 heures? » Fait que moi, là, j'ai même pas... L'auto est branchée, j'ai même pas à sortir de la maison, je prends mon application, je dis « Commence la recharge à 9 heures. » Et là, on s'aligne pour avoir ce qu'on appelle la tarification dynamique chez Hydro-Québec, si peu, ce qui va faire en sorte que tu vas être capable de te charger de soir ou de nuit à un tarif plus bas que ce que ça coûte à l'heure actuelle. Tu pourrais diminuer de 30 à 40 % ton coût de recharge pour ton véhicule électrique dans les années à venir. Alors que les gens disent « Ah, l'électricité, ça va coûter plus cher quand tout le monde va avoir des voitures électriques. » C'est le contraire. Pour t'encourager à te charger de nuit quand il y a moins de demande d'électricité, bien, tu vas avoir un tarif avantageux.
En fait, il y a déjà quelque chose qui existe de très similaire que je suis justement inscrite. Là, si je consomme moins dans les heures de pointe, justement, mon tarif est beaucoup plus bas dans les autres heures.
Donc, ouais, exactement.
C'est extraordinaire.
Mais là, ils veulent développer ça beaucoup plus. Ils ont soumis ça à la régie de l'énergie. Donc, ça veut dire que, tu sais, on va faire un calcul rapide. Okay? Quelqu'un qui a un véhicule qui fait 8 litres au 100, le prix du litre est à 1,50. Ça veut dire que ça te coûte 12 $ pour faire 100 km. C'est un véhicule électrique qui fait 20 kWh par 100 km, là, qui est à peu près une moyenne. À 11 cents le kWh, ça te coûte à peu près 2,20 $. 2,20 $ versus 12 $. Mais là, si je me recharge de nuit puis que je baisse mon coût de recharge, là, ça me coûte 1 $ au lieu de 12 $, c'est 12 fois plus. Mais le calcul est le même pour les camions. Fait que, tu sais, entre quelqu'un qui fait du 30, 40, 50 litres au 100, mais qui s'en passe au kWh puis qui voit son coût de recharge changer significativement, un et deux, moi, là, le jeudi matin, je me demande pas quel va être le prix de l'électricité. Un jeudi matin, tu te demandes, va être le coût des essences ou du diesel parce que les prix ne cessent de fluctuer.
Ça t'amène un bon point. Le jeudi étant souvent la journée décisive du reste de la semaine.
Ou les vacances de la construction.
Non seulement ça, la politique aussi. Des fois, on peut voir des décisions politiques qui vont complètement bousculer nos tarifs.
Ah oui, absolument. La guerre en Ukraine, vous vous rappelez ce que ça a fait au début 2022? Ouais. Le prix du litre a monté à 2 $ en quelques semaines. Les gens ont littéralement flippé sur le prix de l'essence. Moi, j'ai dit, écoutez, ça fait 20 ans que je vous dis, si vous passez un véhicule hybride ou électrique, là, vous seriez beaucoup moins préoccupé par le prix du carburant le jeudi.
Moins stressé.
Quelque chose qui m'inquiète, moi, de mon côté, avec l'électrification, c'est beaucoup les bornes de recharge. Là, je comprends que les transporteurs, ils vont acquérir un camion électrique, ils peuvent le charger dans leur cour. Mais est-ce qu'éventuellement, on va voir plus de bornes de recharge, que ce soit même pour les voitures ou les camions électriques? Je ne sais pas, on dirait que... Si on manque de charge, on fait quoi? Ou est-ce que c'est le transport qui va changer? Comme là, on parlait de la Californie tantôt, je me disais, est-ce que dans un certain avenir, peut-être que c'est le transport qui va changer dans ce sens qu'on va faire de la plus courte distance puis on va relayer le voyage? Est-ce qu'on pourrait en venir là s'il manque de bornes?
En fait, le réseau de bornes de recharge, il faut comprendre une chose. C'est que l'objectif du gouvernement du Québec pour les véhicules légers, c'était 32,5 % de ventes de véhicules légers en 2026. En 2024, au troisième trimestre, on était à 34,6 %. Donc, on était 2 ans avant de l'objectif. Donc, le nombre de bornes de recharge n'a pas suivi les ventes de véhicules électriques. Donc là, il y a eu une couple de problèmes de congestion aux bornes dans le temps des fêtes, justement, cette année.
Oui, dans le parc, justement.
Dans le parc. Là, puis d'ailleurs, ça, je vais t'en parler de ça. Mais une chose est certaine, c'est que la colonne vertébrale de la recharge, que ce soit pour les véhicules légers ou les véhicules lourds, ce n'est pas les bornes publiques. Ce sont les bornes à la maison, les bornes au dépôt, les bornes au garage. La majeure partie des recharges se font là et doivent se faire là. Et cette semaine, moi, j'étais à l'Assemblée nationale pour parler d'un projet de loi sur les véhicules moyens et lourds. Et j'en ai profité parce qu'il y avait des gens qui disaient « On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. » Et j'ai amené des véhicules, des camions légers, moyens et lourds devant l'Assemblée nationale. J'ai invité les élus à venir faire un tour dehors pour voir les camions légers, moyens et lourds. Et je leur ai dit, en passant, on s'en va à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Puis, on a eu la température, quand il faisait chaud, c'était à moins 15, puis ça a descendu jusqu'à moins 40 avec le vent à Saint-Félicien. Et on est parti de là, et sur les 13 camions qu'on avait amenés pour traverser le parc, il y en a un qui a dû arrêter de se recharger à l'étape. tous les autres ont pu traverser directement, même ceux qui avaient des remorques. Fait que la réalité, là, quand on nous dit l'enjeu de la recharge, c'est vrai qu'il faut développer de plus en plus de bornes. Hydro-Québec commence à annoncer qu'ils vont développer un réseau de bornes pour les véhicules moyens et lourds. Mais la réalité, c'est aussi un travail d'éducation et de formation à faire auprès des chauffeurs et auprès des gestionnaires de flotte sur la recharge.
Tu comprends, Daniel, qu'on s'embarque dans quelque chose où il faut éduquer.
Ah, énormément.
Puis les vieilles mentalités, moi, je fais de la motoneige. Demain matin, tu me dis, je vais te prêter une moto électrique. Je vais avoir de la misère, une motoneige électrique.
Ouais.
Parce que quand on paye, ça avance, là, tu sais. Mais éventuellement, tu sais, peut-être...
Quand tu payes, ça avance, tu veux dire une moto électrique?
Les deux, ouais. Tu sais. Mais je pense qu'il y a un travail d'éducation qui doit se faire.
Incessant.
Et, tu sais, il faut aller à contre-courant de temps en temps aussi, là. Tu sais, il faut affronter la vague de face de temps en temps aussi, là.
Écoute, moi, en 2016, j'avais publié un livre où il y avait à peu près 10 pages sur les mythes sur les véhicules électriques. Moi, j'étais naïf dans ce temps-là, là. Moi, je croyais qu'en 2020, tout le monde aurait tout compris. Ouais. J'ai sorti un livre en 2024 qui s'appelle « 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques ». C'est 240 pages que j'ai fait avec un groupe de scientifiques, d'ingénieurs.
Comment tu le nommes, le livre?
Parce que 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques.
Il se retrouve un peu partout en librairie.
Il se retrouve en librairie, oui, absolument. Parce que j'en avais jusque-là de lire dans les médias traditionnels et les médias sociaux toute une quantité de conneries sur les véhicules électriques. Fait que le travail d'éducation dont tu parles, il est fondamental. Puis nous, on forme, on aide à former des gens qui vendent des véhicules électriques parce que, donner un exemple, moi, j'ai formé à peu près 2000 personnes dans les dernières années là, sur les véhicules électriques. Puis, sur les 2000 personnes, je leur posais une série de questions dont une disait, combien de fois avez-vous déjà branché un véhicule électrique sur une borne rapide? Mon taux de succès, c'était 1%. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas comment brancher le véhicule sur une borne rapide, donc ils ne pouvaient pas l'expliquer aux chauffeurs, aux clients, aux
vendeur.
Consommateurs.
Ouais.
Non, parce qu'ils ne connaissaient juste pas, parce que les constructeurs ne leur expliquent pas.
Ouais.
Fait qu'il y a tout un travail de formation. Puis moi, je parle avec des compagnies de camionnage ici et je parle avec des fabricants de camions électriques. Puis je leur dis, si vous ne formez pas vos clients, c'est une recette pour l'échec.
Ouais. En fait, ce que j'entends au travers de tout ça, c'est comme si, d'une certaine part, on était quasiment victime de la vitesse à laquelle la transition se fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'on... On avance rapidement là-dedans, mais j'ai l'impression que nous, les humains, on dirait qu'on traîne de la patte en arrière.
Écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, souvent quand je dis on passe de l'essence, on passe du diesel à l'électrique, c'est passer d'un PC à un Apple, tu comprends?
Ouais.
C'est un autre langage, une autre façon de penser. C'est apprivoiser une autre technologie. Mais moi, je me rappelle, mon père, quand il était toujours vivant, mon père me disait, moi, jamais je vais avoir un ordinateur ou un téléphone cellulaire. Fait qu'il y a quelque chose de culturel aussi là-dedans.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des gens là, qui préféraient être morts que de conduire un véhicule léger ou lourd électrique.
Oui.
Il y a cet aspect-là.
On l'entend souvent.
Tu sais?
Oui, effectivement. Daniel, si on a besoin d'informations, on aimerait peut-être discuter avec toi. On est une entreprise de camionnage. Peut-être voir, je ne sais pas si votre service va jusque-là, avec Mobilité électrique Canada, est-ce que je pourrais vous contacter pour dire « j'ai 200 camions ». Comment est-ce que je pourrais arriver à avoir peut-être moins d'empreintes sur l'environnement?
Oui, ça fait partie du travail qu'on fait parce que nous, dans nos 200 membres, on a des gestionnaires de flotte, on a des gens qui se spécialisent là-dedans, puis on a un groupe de travail qui s'appelle le MHDV Working Group. Je m'excuse, nous autres, on est en anglais, là, principalement.
Camionnage, on a une partie en anglais.
C'est ça, mais bref, oui, fait que les gens peuvent aller sur notre site web, nous contacter, puis les gens deviennent membres, puis on leur donne du soutien pour faire en sorte qu'ils puissent, comment dirais-je, apprivoiser cette transition-là de façon efficace d'un point de vue économique et d'un point de vue logistique.
Mmh. Daniel Breton, merci beaucoup. C'est fort enrichissant. On apprend tous les jours.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci.